On va avoir Robin à gauche qui vous passera le micro, donc n'hésitez pas à lever vos mains. Pareil pour celles et ceux qui sont ici, vous pouvez tout à fait poser des questions et voilà, vous pouvez lever la main. On aimerait bien que ça parte plutôt en discussion, si jamais c'était possible. S'il n'y a aucune question, nous on en a préparé 2-3, mais on préférerait que ça vienne de vous, évidemment. Donc voilà, et on se dit jusqu'à quelle... On se dit une demi-heure ? On se dit une demi-heure, parce que la journée a déjà été très longue. Merci beaucoup pour les courageux et courageuses qui sont encore là.
Félicitations.
Félicitations.
Oui, quand tu parlais de la brochure et sur les demandes par rapport le lien qu'il y avait aussi avec les intermittents sur le fait de demander moins d'heures pour avoir le chômage, hein, c'est ça. J'ai pensé à un truc, c'est que le chômage, en fait, il n'est pas compté au niveau des retraites. Donc c'est pas un truc à... Il faudrait peut-être demander... Il faudrait le formuler différemment, puisqu'ils comprennent pas que c'est du salaire. Donc il faudrait peut-être le formuler différemment, parce que... Enfin, moi, j'ai eu la chance de faire partie de l'annexe 4, par exemple, en tant qu'intermittente de santé. Et... ça va être galère, quoi. Et effectivement, c'est là aussi que moi j'ai compris dans les années 2000, au début des années 2000, que le chômage c'était du salaire. Je connaissais pas encore un réseau salarié, hein. Mais le fait que je puisse faire mes heures, nous c'était 910 heures, que je puisse faire mes heures. Et en tant qu'infirmière, on cumule beaucoup d'heures dans la journée. Donc c'est vrai que je travaillais 12 jours par mois. Et que le restant m'était comptabilisé. Et je me disais, c'est extraordinaire. Et effectivement, ceux qui m'ont beaucoup aidé aussi dans cette démarche-là, c'était les intermittents avec l'annexe 8 et 10. C'est pour ça que j'ai compris beaucoup de choses. Et... moi, je pense qu'il faut aussi, pour l'instant, puisque le salaire à la qualification n'est pas encore de mise, c'est intéressant au niveau des négociations de parler que ça soit comptabilisé comme salaire. Voilà. Enfin, comme on est dans le cotisé, j'ai droit, peut-être que c'est ça aussi. Je pense que c'est, si tu cotises pas, bah, tu n'as pas droit, quoi. Donc, comme un chômeur, il ne cotise pas. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on pourrait faire des raccourcis, que le salaire à vie, c'est le meilleur, quoi. Voilà. Mais pour l'instant, allons-y pas à pas. Voilà, c'était juste cette remarque que je voulais partager.
Oui, mais c'est une remarque très juste. En fait, en faisant un pas de côté, en regardant notre projet de loi et notre brochure, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore prévues, parce qu'on a fait vraiment ce truc-là pour les plus précaires, parce qu'on crève la dalle. Du coup, on s'est vraiment concentré sur le plancher, le seuil d'accession, etc. On n'a pas du tout pensé au plafond et toutes ces choses-là, parce qu'il nous manque plein de choses. Mais c'est juste qu'en fait, j'en parlais avec Aurélien Catin quand j'étais à Paris la semaine dernière. Et on s'est dit, ouais, en fait, on a vraiment fait un truc pour les gens qui sont en chien, qui n'ont rien. Et c'est à continuer, c'est à travailler encore, c'est à améliorer. Et c'est pour ça que, en fait, là, très récemment, il y a pas mal de syndicats qui ont indiqué qu'ils allaient soutenir cette proposition. Et en fait, on va la construire ensemble, l'améliorer. Et je vois Pierre qui lève la main, alors je t'en prie, Robin, je t'en prie.
Ouais. Et juste, peut-être quand vous employez des mots genre annexe 4, annexe 8 ou quoi, n'hésitez pas à préciser de quoi vous parlez, parce que je ne sais pas si tout le monde est calé sur ces notions. Voilà, perso, non.
Si j'ai bien compris ton intervention, en fait, pour les artistes auteurs, la cotisation retraite, c'est cette question-là, elle est très spécifique à notre régime, et donc on a je suis bien dans ce sujet, hein, on est bien d'accord. Comment ? Sur la cotisation, les histoires de retraite.
Non, c'était sur le chômage.
Oui, mais le chômage par rapport à ça. Aussi, voilà.
Oui, c'est-à-dire que
c'est,
c'est,
c'est, voilà, c'est trimestre. C'est à ça que je souhaite répondre. Voilà. On a un mécanisme à l'intérieur de notre régime de sécurité sociale qui est très particulier, qui permet aux personnes qui ne peuvent pas, qui n'ont pas les revenus suffisants pour avoir leurs 4 trimestres de retraite, de faire appel à une commission d'action sociale qui permet de la surcotisation par le régime des cotisations retraite. Donc cette PPL, en fait, me semble-t-il, va aussi améliorer ce système déjà.
Oui, bah c'est...
Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Tant mieux.
Je prends d'autres remarques, d'autres témoignages.
J'ai un peu une question qui porte un peu sur toutes les interventions de cet après-midi, qui est celle de des critères, en fait, la manière dont on choisit les modes de conventionnement ou signifier ça bien. Disons que je trouve que, par exemple, la sécurité sociale de la culture, c'est hyper excitant. Enfin, moi, cette présentation m'enflamme, mais me pose aussi énormément de questions sur comment on va évaluer qui est un artiste, qui n'en est pas un, comment on va qualifier, quels sont les critères de qualification et de conventionnement des lieux culturels, etc. Avec un peu en tension le truc de si on donne liberté totale, est-ce qu'on n'a pas risque d'avoir des endroits ou des promotions de trucs culturels presque dangereux, enfin, je sais pas, des trucs hyper racistes ou des trucs comme ça. Oui, la question est mieux. Comment se mettre en place avec l'autogestion avec des personnes très... Ouais, j'ai vraiment du mal en public, c'est complexe. Comment se met en place l'autogestion avec des personnes très différentes, du coup, un peu ce que tu disais toi aussi par rapport à l'alimentation, qui avait une certaine homogénéité. Mais comment tu fais pour qualifier quand il y a des trucs très, enfin, des personnes avec des croyances, des vécus, des intérêts extrêmement différents. Ce que tu as évoqué aussi tout à l'heure par rapport à la mutuelle, qui a, dans des expériences de vie différentes, des patrimoines différents, etc. Comment, en fait, on fait pour rendre la chose réellement égalitaire, prendre en compte les positions minoritaires, les positions de tout le monde, etc., et dans toute la complexité, quoi. Voilà.
Qui veut répondre ? Rémi ?
Je sais pas si je vais être vraiment très pertinent, mais on promet pas le paradis. Il va y avoir effectivement à l'intérieur des caisses des institutions qui vont qualifier les personnes ou qui vont conventionner les lieux. Il va y avoir débat, évidemment. Il va y avoir des heureux et des malheureux, ceux qui où on estimera que les critères ne sont pas nécessaires. Pour l'instant, vous voyez, comme je balbutie un peu, il y a encore plein de choses encore à réfléchir. Mais ton intervention me fait penser que j'ai pas eu le temps de dire une chose importante. Dans une des propositions du séminaire, nous avons évoqué le fait de... Alors, effectivement, sur les critères spécifiques, ça coince. Parce qu'on veut que ça soit le plus généraliste possible, pour justement ne pas avoir à décider de critères esthétiques. La sélection va aussi se faire par une hiérarchie des salaires. C'est-à-dire que le premier niveau de qualification va déterminer un salaire, on a dit, 1800 euros pour les nouveaux entrants. Évidemment que pour ceux qui auront déjà une carrière avancée, moi j'ai par exemple 50 ans, j'ai pas du tout envie de revenir à 1800. Donc on pourra imaginer qu'à certains tronçons d'âge, ça correspond à un deuxième niveau de qualification, voire un troisième, vu qu'on est à 1 à 3, donc ça sera pas très compliqué. Mais la chose qui nous semblait importante, c'est que comme, encore une fois, les sécurités sociales sectorielles, ce sont des outils pour désinguer le mode de production capitaliste. Ce n'est pas une finalité. C'est-à-dire que le jour où le mode de production capitaliste aura totalement, sera totalement subverti, eh bien, exit des sécurités sociales sectorielles. Il y aura une sécurité sociale, point. Voilà, il n'y aura, aura pas des critères de qualification spécifiques pour les artistes, pour les mangeurs, pour que sais-je. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, de la stratégie pour enfoncer des coins communistes dans, la production dans le mode de production capitaliste. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous avons imaginé un système où quand on qualifie la personne, quand on lui donne un grade... On s'est dit, oui, mais tout l'appareil productif de la culture ne sera pas conventionné. Il y aura certains qui seront conventionnés et d'autres qui ne voudront pas. Comme au modèle du régime général, au début, hein, ça a été ceux qui acceptaient la convention collective, ceux qui ne l'acceptaient pas avant que ça soit obligatoire. Donc il y a toujours des phases de transition. Eh bien, notre idée, c'est que quand la qualification est attribuée à une personne, elle est à vie. Quand bien même elle ira travailler à la fondation Vuitton. Alors, la deuxième question qui arrive, c'est que la fondation Vuitton, ah ben, elle aura beau jeu d'embaucher des gens qualifiés, au moins elle ne versera pas les salaires. Eh bien, la loi imposera à la fondation Vuitton de payer ce qui correspond au salaire global, hein, le cachet avec salaire net et cotisations, évidemment, patronales et salariales, aux caisses de salaire. Et enfin, on fait un véritable coin à la qualification personnelle. Parce qu'aujourd'hui, le fonctionnaire, s'il sort de la fonction publique, il perd sa qualification. Et ça, c'est un problème. Parce que moi, en tant que prof de la territoriale, si je démissionne, ça y est, je redeviens un être de besoin, je redeviens à poil. Tandis qu'avec notre idée, que je la trouve intéressante, eh bien, c'est que c'est un véritable salaire à la qualification personnelle, à vie, un véritable salaire à vie. On ne peut plus se défaire de cette qualification. C'est comme ça qu'on rend un peu hégémonique cette idée de la qualification personnelle.
Bah, c'est que du coup, j'ai l'impression, imaginons si on arrivait à ce salaire à vie, en tant que créateur, par exemple, je pourrais vivre, enfin, j'aurais pas d'inquiétude sur ma subsistance, mais par contre, comment faire en sorte que mon travail soit diffusé? Et du coup, parce qu'en fait, on pourrait imaginer qu'il y aurait plein d'artistes qui vivraient, mais qui seraient extrêmement peu diffusés. Et du coup, ça pose aussi la question de la visibilité de certains propos, etc. Et de bah, toujours quand même la sélection. En fait, même sans la question, on pourrait arriver dans un monde sorti, entre guillemets, de la question monétaire. Enfin, pas vraiment, mais... Et où il y aurait quand même la question de la visibilité et ce qui reproduit quand même des structures de pouvoir. Et en fait, moi, c'est un peu cette question.
Mais c'est là où il y a tout l'enjeu démocratique, en fait, de la... l'enjeu démocratique, du coup, de ces caisses, en fait, et que c'est les habitants d'un territoire qui participent à ces caisses, qui la font évoluer. Et donc, bon, voilà, du coup, bien sûr, les décisions, elles sont prises par consensus. Et en fait, il y en a plein, là, en un an, qui n'est pas allé très loin parce qu'ils n'arrivaient pas à dépasser, pour le moment, c'est resté en suspens parce que personne n'a réussi à se mettre d'accord. Donc, du coup, y a des choses comme ça. Et c'est là où, du coup, le temps, hein, la question du temps, est, je veux dire, ça va prendre du temps de se mettre d'accord sur des choses. Et puis, donc le pari du CLAC, là, c'est d'avoir cette phase de transmission et d'apprentissage en commun pour que chacun puisse penser en connaissance de cause et prendre des décisions en commun. Parce qu'on aura une base commune et là-dessus, du coup, réfléchir à un conventionnement et à des critères, ça paraîtra sûrement... Ben, on arrivera davantage à un consensus parce qu'on sera passé par cette phase-là. Je sais pas si c'est... Et pour la culture, on peut l'imaginer pareil, quoi.
Oui, sur cet aspect du conventionnement. Alors, il y a quelque chose qu'il faut pas oublier. Je vais faire l'économiste peut-être un peu rabat-joie de service là-dessus. C'est que on se pose la question des critères est-ce que toi tu y es, machin, t'es auteur, pas auteur, artiste, machin, et ainsi de suite. Très souvent, parce que derrière, il y a quand même une question de quelles ressources on va pouvoir y consacrer. Évidemment, c'est pas la même chose d'avoir, on peut dire tout le monde, 70 millions de personnes, voilà, peuvent être bénéficier de la caisse de la sécurité sociale de la culture. Ok, mais si vous avez le même volume de ressources que on soit 70 millions ou les 130 000 actuels, et la division n'est pas la même. Et donc en fait, ça c'est juste se souvenir d'un truc, c'est que on ne peut pas dissocier la sécurité sociale et de tout ce qu'elle déploie en termes de démocratie, de convention, etc., du taux de cotisation, hein, et du fait qu'on socialise une part, voire entièrement, la valeur produite. Hein. Parce que sinon, on se retrouve, ce que l'on vit actuellement, hein, dans un certain nombre d'institutions de la démocratie sociale, c'est les organismes dits paritaires, l'assurance chômage, les institutions de prévoyance en charge de la retraite complémentaire. On est de bons gestionnaires et on fait avec les ressources qu'on a. Et on commence à bidouiller les critères. Toi, tu y es, il faut cotiser tant de temps. Enfin bref, ça devient compliqué. Et puis après, il y a un aspect, à mon avis, fondamental sur la notion de convention. Pour moi, elle est. J'en vois toute la logique, mais c'est, à mon avis, au regard de l'histoire du régime général, une erreur. Ce que je veux dire par là, c'est que si on avait pu faire autrement, on aurait fait autrement. Et cet autrement, hein, pendant la période dite des Trente Glorieuses, on aurait fait de la gestion directe. On n'a pas besoin de savoir si un médecin est d'accord pour respecter un tarif. Non, le médecin, il est salarié directement de la caisse, dans un centre de santé qui est propriété de la caisse, parce qu'un conseil a décidé collectivement qu'à cet endroit-là devait y avoir un centre de santé. Alors, ce raisonnement-là, appliqué à l'industrie culturelle, il peut poser quand même des problèmes, parce que, et à l'alimentation aussi. Parce que, il y a un souci de faisabilité immédiat. Les gens ne veulent pas. Hein. Aujourd'hui, les médecins, ils ne veulent pas être salariés, hein, globalement. Alors, au début, ils disent oui, si on veut bien. Puis après, en fait, non, ils ne veulent pas. Puis il y a la question de l'indépendance, etc. Mais il y a quand même cette idée-là qu'il y a une gestion directe à avoir, qui peut être complémentaire, hein. C'est un enjeu. Et le deuxième aspect, c'est que dans la définition des critères, imaginons, nous sommes un conseil de cette caisse de sécurité sociale, quelle qu'elle soit, générale, parce qu'on met tout dans une seule même caisse. Bon. Très bien, mais en face, vous avez des travailleurs. Alors, dans le régime général, l'avantage, c'est que c'était les travailleurs qui étaient représentés. Là, ça sera des usagers du territoire, par exemple, mais les travailleurs, les identités professionnelles, le syndicalisme qui organise les travailleurs pour les revendications, etc. Eux aussi, ils ont peut-être leur mot à dire sur la définition des critères. Et là, tout d'un coup, ça peut peut-être, en fait, pas compliquer les choses, mais juste aider à dire, nous, on considère qu'il y a tel critère. Et puis, si ça se trouve, on créera peut-être un régime spécial ou pionnier de la culture pour telle profession ou pour telle autre. Et là, tout d'un coup, on redémarre dans la machine créative, en fait, à partir des expériences concrètes et des statuts professionnels, etc. etc. Donc, vous voyez, il y a toute cette logique-là d'idées.
Juste pour rajouter un dernier mot, pour te répondre directement, attention, sortir du mode de production capitaliste, sortir du marché capitaliste, ne veut pas dire sortir du marché tout court. Il va subsister un marché qu'on nommera communiste, puisqu'il ne sera pas capitaliste. Mais un artiste, ça c'est pour répondre aux peurs, aux craintes justifiées de la médiocrité artistique. Effectivement, il y aura des mauvais pianistes, il y aura des mauvais comédiens. Et il y en a déjà. Et malheureusement, quand la bourgeoisie a décidé que lui, c'est l'élu, on n'a pas le droit de dire qu'il est mauvais. Bon, et bien là, on va redébattre. La qualification, disons, le premier niveau, il sera très facile à obtenir. Mais le second, il faudra montrer que nous avons été productifs. Et là, je rejoins Victor. Il faut bien produire de la valeur pour tirer des cotisations, pour financer quelque chose. Alors, il y a la question de la création monétaire qui doit être absolument posée. Il faut avoir la main sur la création monétaire parce qu'il y a plein de secteurs où on va dire ben ça, ça vaut salaire. Ça, ça vaut de la valeur économique. Tout comme on a fait dans le secteur de la santé, quand on a les nonnes, quand les religieuses, elles ont fait un acte d'infirmier, on les a professionnalisées, donc on a créé de la valeur. On ne va pas simplement, uniquement, aller essayer de piquer le profit. Le profit, évidemment, qu'il faut qu'on le récupère. Mais on va étendre la valeur économique, on va étendre le champ du travail productif. Donc cet artiste qui sera, malheureusement, qui ne rencontrera pas un succès avec son public, avec les diffuseurs, qui ne sera jamais programmé nulle part, eh bien peut-être qu'il se dira, je ne vais pas pouvoir obtenir mon deuxième niveau de qualification. Est-ce que je vais rester à 1 800 € par mois toute ma vie? Peut-être qu'il pensera à une reconversion. Donc là, on va peut-être éviter justement cet enfermement et cette peur de la médiocrité. Mais aujourd'hui, la sanction, elle est terrible. Si tu n'es pas embauché, tu crèves de faim. Parce que là, dans ce régime-là, pas du tout. Tu as toujours ce salaire qui est attaché à toi-même.
Oui, moi je voulais. Alors j'avais une question et puis en même temps après je voulais réagir. Par exemple avec ce que tu disais sur le fait que si jamais on a un salaire, est-ce que ça va pas un peu brimer la diffusion de nos œuvres? Parce que du coup moi je suis artiste plasticienne à Marseille. Et au contraire, moi, je pense que c'est un petit peu comme vous avez dit, que en fait, c'est surtout le système qui nous empêche, pour vous, de faire des concerts. Et je pense que nous, si on avait des conditions de travail dignes, au contraire, on ferait beaucoup plus d'expositions. Et moi, dans les fois où j'ai été dans des collectifs autogérés, en fait, nos expositions, on se les organisait nous-mêmes. Alors, c'est quelque chose qui tournait très bien. Et au contraire, on fait des œuvres et on a envie de les montrer, on a envie de préparer des expositions. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui pourrait se résoudre parce que c'est déjà un petit peu en nous. La question que j'avais, c'était par rapport au financement de cette sécurité sociale de la culture. Est-ce que ça resterait sur un système étatique de subvention où il y aurait un montant qui va être attribué et ça va être redistribué après avec les plasticiens, plasticiennes? Ou est-ce que il y a aussi la pensée d'un système d'autofinancement du secteur? Je pense au système du CNC pour l'audiovisuel qui va s'autofinancer par de la taxation sur les cinémas. Est-ce qu'il y a aussi une pensée d'autofinancer le système et de le réinjecter à l'intérieur des professionnels de l'art?
Alors merci pour cette question qui est pour Réseau Salariat fondamentale. Il y aura des instances de la subvention qui ne seront plus des instances d'élite. Je pense aujourd'hui au fonctionnement des subventions publiques. Il y a carrément des commissions d'experts à la DRAC qui ne sont pas décisionnelles, mais qui sont consultatives. Dans cette commission d'experts, vous ne voyez pas un simple technicien ou un simple artiste. Non, c'est que des élites, des directeurs artistiques, des directeurs de scène nationale, voilà, des chargés de mission. Donc cette oligarchie, on n'en veut pas. On va démocratiser ces instances. La subvention, ça va pas être pris sur une taxation du capital, comme aujourd'hui on le pense, ou à la solidarité interprofessionnelle. De cela aussi, il faut sortir. Il faut clairement dire, toute production doit avoir un salaire préalable. D'abord, on verse le salaire et on travaille ensuite et on produit ensuite. C'est ça, renverser un mode de production. Aujourd'hui, nous avons totalement intégré le mode de production capitaliste qui est la subordination au travail. La bourgeoisie est obligée de rendre le travail subordonné tellement elle fait du travail de la merde aujourd'hui. Donc, comme on est méritant, comme on travaille, eh bien à la fin, on touche son salaire et on la ferme, puisqu'on n'a aucun pouvoir là-dessus. Donc on va renverser la machine. On va verser des salaires grâce à la création monétaire. Cette création monétaire, ce ne sera pas de la monnaie de singe, puisqu'elle sera, elle sera, disons, basée sur le travail, sur les travailleurs. Finalement, l'investissement, le travail, n'a besoin que de salaires. On verse des salaires et on produit ensuite. Donc ce n'est pas aller chercher un financement quelque part. Le penser comme cela, c'est notre condition d'aliéné. Hein, ce n'est pas une critique, hein, je pense aussi comme ça. Hein, je suis un citoyen capitaliste, et même en tant qu'un fonctionnaire, je suis payé à la fin du mois. C'est complètement con. Pourquoi à la fin du mois ? Il faut que je mérite mon salaire, alors qu'il n'y a que le travail vivant qui produit de la valeur économique. Encore une fois, il faut renverser la table. D'abord le salaire, on produit ensuite. Et les caisses de subventionnement, ça va être une direction collective, démocratique, politique, de quelle société on veut, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut produire en termes de culture, en termes d'alimentation, en termes de transport, en termes de santé, me semble-t-il.
Juste que du coup, on est d'accord que dans ce cas-là, ça peut fonctionner à la condition que le ministère de la Culture n'existe plus et que tout le système étatique n'existe plus.
J'ai tendance à dire, et je l'ai souvent dit pendant le confinement, que d'aller s'adresser à notre ministre de tutelle, c'était faire preuve de, comment on appelle ça, de syndrome de Stockholm. Qu'est-ce qu'on a là à foutre d'aller voir la ministre de la Culture ? Et quand bien même, elle est super. On n'en veut pas aux personnes. On ne va pas s'adresser à son bourreau. On n'a pas besoin d'élite. Encore une fois, le geste du régime général de la sécurité sociale, ça a été ça. Ce sont les intéressés eux-mêmes, les travailleurs, qui ont géré et qui ont décidé où aller l'argent pour l'investissement. Faisons la même chose.
Juste, est-ce que donc je te peut-être tu peux poser ta question, on peut prendre une dernière question en suivant et après on vous donne une dernière parole et je sais que vous avez envie de parler des heures encore mais il faudra malheureusement s'arrêter donc vas-y.
Oui, je levais la main pour rebondir sur cette question du domaine public payant qui a été aussi un cheval de bataille des organisations professionnelles des arts visuels, puisque en fait, ce domaine public payant, ça consiste en gros à prélever une taxe, à prélever une somme, hein, une redevance. Merci Irène, une redevance sur le ticket d'entrée du Louvre et d'autres musées, par exemple, qui alimenterait, qui irait vers les artistes vivants. Et alors, je vais la lui filer. C'est pour toi.
Alors, le domaine public payant, c'est donc. Il y a des œuvres qui, au bout de 70 ans après la mort de l'auteur, ce qui est un peu beaucoup trop long, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, une fois qu'elles sont tombées dans le domaine public, ces œuvres. Elle continue à circuler, elle continue à générer de la valeur économique. Il y a eu en 1993, à l'époque, le droit d'auteur, c'était 50 ans après la mort de l'auteur. Il y a eu en 1993 un projet de directive européenne qui était sur le domaine public payant, qui était donc d'appliquer une redevance sur toutes les reventes d'œuvres tombées dans le domaine public. C'est-à-dire toutes les éditions de Balzac, Victor Hugo et Tutti Quanti, mais aussi sur quand on a trouvé un Rembrandt caché dans son grenier, enfin toutes les œuvres qui passent en salle de vente et dont l'auteur est mort depuis plus de 70 ans. Donc une redevance qui pouvait être assez faible en pourcentage, mais qui aurait généré des sommes assez conséquentes pour le projet qui avait été fait par un professeur allemand qui s'appelle Adrian Goetz, pas Adrian mais Goetz, bon, voilà, Adrian Goetz c'est un écrivain français. Et donc c'était pour alimenter un fonds C'est-à-dire que les auteurs morts bénéficient aux auteurs vivants, que cet argent revienne dans le financement, que le patrimoine d'hier alimente le patrimoine de demain. Et alors, donc ce projet de directive européenne était dans les tuyaux, mais malheureusement, on avait affaire à des lobbyistes capitalistes de l'autre côté qui nous ont dit « Ah, mais on va vous faire un projet vachement plus intéressant, on va passer de 50 à 70 ans après la mort de l'auteur, la durée des droits d'auteur, c'est-à-dire que les auteurs morts continuent à bénéficier aux auteurs morts ».
Du coup, c'est une bonne transition parce que moi, c'est une question que je voulais poser et je n'avais pas encore entendu le terme dit, donc le terme de droit d'auteur, qui est même, j'ai l'impression, quand même une particularité du statut d'artiste-auteur. Et comment un peu, peut-être, voilà, une réflexion, une question ouverte sur comment on l'aborde politiquement, cette question du droit d'auteur, parce que c'est quelque chose qui bénéficie en termes de revenus qui a une petite... toute petite partie en fait des artistes auteurs, mais pourtant j'ai l'impression qu'il y a un genre de halo politique autour du droit d'auteur qui empêche de penser plein de choses, par exemple sur la circulation libre des œuvres, notamment numérique, mais également sur j'avais noté.
Mais tu devais poser une question simple, pas qui ouvre un débat de 45 ans.
Ah oui, sur les licences libres. Voilà, les licences libres. J'aimerais l'avis de tout le monde sur ça.
Je vais me permettre une réponse, j'imagine que tu en voudras en faire une aussi, ou peut-être les autres camarades. Ça ne concerne que moi, pas les organisations que je représente, que je ne représente pas. Ça, voilà. Quand on aura conquis une continuité du revenu, du salaire à vie, le droit d'auteur, on va le foutre en l'air. En attendant, c'est notre seule protection, donc on ne peut pas actuellement... Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas dans ma pratique d'artiste. J'utilise pas, bref, je suis vraiment pour la licence art libre, les Creative Commons, etc. Mais dans l'état actuel des choses, c'est une source de revenus pour beaucoup de gens qui n'en ont pas. Donc, à mon sens, on ne peut pas encore le toucher. Une fois qu'on aura conquis des droits, je pense qu'il faudra s'en débarrasser. Moi, je n'ai pas envie d'être propriétaire, ça ne m'intéresse pas. Faire la rente de mon œuvre, ça ne m'intéresse pas du tout. Et surtout que, actuellement, le droit d'auteur n'est plus du tout questionné. C'est vraiment une question qui est devenue technique, alors qu'en fait, je vous invite à lire des articles d'Anne Latournerie sur l'histoire du droit d'auteur, qui nous montre bien que ça a toujours été des questions politico-philosophico-juridiques. Ça a toujours été cette question, en fait, comment on rémunère l'auteur, quelle place pour la diffusion de l'œuvre, etc. Là, j'ai l'impression que c'est plus du tout questionné, alors que ça devrait l'être à fond, bien sûr. Je vais faire bref, parce que...
Ben, après, enfin, j'ai l'impression que ça peut être... Enfin, peut-être on prend une dernière réponse et ça sera ce qui nous amènera vers l'apéro en mode « Oui, le droit d'auteur oui. !»
Non, moi, je suis absolument pas spécialiste du droit d'auteur, mais de ce que j'en ai compris grâce à Aurélien Catin, c'est qu'effectivement, il faut absolument questionner ce droit d'auteur qui est intrinsèquement lié au mode de production capitaliste, c'est-à-dire qui rémunère un patrimoine sert de rémunération. Et ça, c'est pas possible. C'est pas l'outil, c'est pas l'objet qui génère de la valeur économique. C'est le travail vivant. Donc, si on ne questionne pas le droit d'auteur, ça veut dire qu'on reste dans le mode de production capitaliste. Comme si vous avez un appartement que vous louez. Voilà. On nous fait croire que l'appartement vaut du salaire, mais il ne produit rien du tout, l'appartement. Votre droit de propriété est là simplement pour piquer la valeur produite par d'autres. C'est ça, le capitalisme. Donc, il faut... tourner le dos. Alors, évidemment, il n'y a qu'à Faucon, hein, c'est facile. Hein, mais non, je comprends bien. Hein, je ne suis pas là pour dire... Ben, certains, ils n'ont que ça, donc évidemment. Mais il faut le questionner, ce droit d'auteur. Non, donner un salaire aux travailleurs de la culture.
On continue autour d'une bière ou... Pierre, allez, Pierre, t'as le mot de la fin ?
Excusez-moi, je prends une autre casquette. Je suis administrateur de la Société des auteurs de l'image fixe. Les arts visuels sont les plus minables en termes de rémunération de tous les autres secteurs. La CEF ou la SAIF, comme vous voulez, c'est une société d'auteurs autogérée qui est réellement démocratique avec des élections. Et pour les sociétaires de la CEF, c'est le 13e mois. Hein ? Donc, je veux bien, après, dans un monde idéal, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, si vous êtes artiste, auteur visuel, que vous n'êtes pas sociétaire de la CEF, non seulement vous perdez de l'argent, mais en plus, vous fragilisez le secteur, parce que en face, c'est les gros, c'est la SACEM, la SCAM, la SACD. Et si une partie du gâteau de la copie privée et des rémunérations collectives, on était 1% de la rémunération collective. Il y a 24 ans, les arts visuels, c'était 1%. Face à la SACEM, 50%. Là, on est 7%. Mais rejoignez la CEF, qu'on grossisse un peu, et vous toucherez des sous.
Mais je crois que Emmanuel n'a pas dit le contraire. Et voilà. Mais merci pour cette intervention. Et vous voulez le mot de la fin, ou c'est bon, là, on y va on... Voilà. Mais merci beaucoup à tous. Merci à l'Air 22. Merci à tous les intervenants. Merci à l'Air 22, à la Cité de l'Agriculture. À ceux qui ont aidé, oui, grave, pour tous les petits trucs trop chiants que demande l'organisation d'un événement, la nourriture, la distribution des affiches, les machins, les trucs, vraiment, c'est énormément de travail invisible, tout ça, le café, et merci beaucoup à tout le monde.